Oui, alors ce soir, avant de même continuer notre étude sur la manière dont Dieu s'est révélé à l'humanité à travers Jésus-Christ, à travers sa préincarnation, hein, rappelez-vous, c'est à toute la période de l'Ancien Testament où nous voyons Dieu agir et se révéler à l'humanité par le biais d'une personne exceptionnelle, hein, l'ange de l'Éternel. Et en étudiant ces choses de près, nous comprenons qu'il s'agissait là d'une théophanie, et plus précisément même d'une christophanie, à savoir que c'est Jésus-Christ lui-même, que c'est la deuxième personne de la divinité qui parlait directement à des hommes, et ce à différents moments de la période de l'Ancien Testament. Mais avant d'aller plus loin que ça, on avait une question la semaine dernière. Et j'avais une référence à vous communiquer pour répondre plus précisément à cette question de pourquoi est-ce que les gens avaient si peur que cela, de voir Dieu, hein, de voir l'ange de l'Éternel ainsi. Alors pour cela, je vous invite déjà à regarder dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 33. Et on regardera à partir du verset 18, hein. Exode chapitre 33, verset 18. Et on a ici Moïse qui fait une demande à l'Éternel. Verset 18, il dit, je suis dans le chapitre 32, pardon. Je disais, ça ne ressemblait pas à ce que j'avais lu. Verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle plusieurs reprises, lorsque on a ces personnes qui comprennent, qui sont dans la présence de Dieu, qui a cette panique, cette crainte, ce malheur à moi, hein, comme dans Ésaïe, hein, malheur à moi parce que j'ai vu l'Éternel. On voit ici que donc nul ne peut donc voir la face de Dieu et vivre. Alors bien sûr, c'est d'autant plus extraordinaire pour nous lorsque nous sommes en train de voir justement à la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ le fait que, eh bien, Dieu, lorsqu'il se révélait à l'humanité, quelque part, il limitait sa gloire, il se limitait pour que justement, soit les gens ne puissent pas le voir dans sa gloire entière, parce que nul ne pourrait subsister d'être dans la présence de l'Éternel, dans cette gloire. Il y a ce verset dans 1 Timothée chapitre 6, verset 15 à 16, qui nous parle de ce que voilà, Dieu il est dans cette lumière, une lumière inaccessible, hein, que nul n'a vu ni ne peut voir. Et on comprend que, voilà, d'être vraiment dans cette gloire de l'Éternel, où il n'y a aucune limite, c'est impossible pour l'être humain mortel. D'accord? Maintenant, pour l'être humain qui est déjà dans la présence de l'Éternel, hein, l'être humain qui a été racheté, qui est là dans la présence de Christ, sans aucun péché, dans sa sanctification complète, il y a rien qui puisse l'empêcher d'être dans la présence de l'Éternel. Mais on comprend bien mieux la réaction de ces personnes qui voilà, ils pensaient que s'ils voyaient vraiment la face de l'Éternel, s'ils le voyaient dans toute sa gloire, effectivement, ils n'allaient pas vivre, hein, ils allaient mourir. Et donc il y avait cette crainte-là qui a perduré. Mais comme on l'a vu à propos de Jésus-Christ, hein, personne n'a jamais vu le Père. Mais Christ, Jésus-Christ, est celui qui l'a fait connaître. Et donc quand Christ il est venu, Hein, il a révélé Dieu d'une manière, on va dire, limitée, hein, pour que les hommes puissent être dans sa présence, communiquer avec lui, parler avec lui, hein, vivre aussi des événements avec lui, hein, dans différentes situations. Donc voilà pour répondre un peu à cette question et donner le passage auquel je pensais, mais voilà. Donc nous étions en train de voir en quoi cet ange de l'Éternel était aussi quelqu'un de particulier. On avait vu qu'il avait cette fonction d'avocat, tout comme Christ, hein, dans le Nouveau Testament, on sait qu'il est notre avocat. L'ange de l'Éternel agissait ainsi également. Et on va voir maintenant que cet ange de l'Éternel donc avait une fonction d'émissaire. Alors émissaire, c'est quoi exactement? Hein, c'est quelqu'un qui est envoyé, quelqu'un qui est envoyé pour apporter un message, une communication. Hein, on parle d'un ange dans notre société comme cet être spirituel, cet être qui peut-être dans l'imaginaire collectif, hein, c'est les ailes, etc. Donc, bon, ça, c'est l'idée que les gens se font d'un ange. Mais quand le mot ange est utilisé dans la Bible, c'est pas forcément tout le temps un de ces êtres angéliques, hein, que Dieu a créé. Ça peut être quelqu'un que Dieu il envoie comme messager. Le mot même angelos en grec, ça veut tout simplement dire un messager, hein, quelqu'un qui apporte un message. Et donc, un ange, c'est un messager qui donc est missionné, hein, de communiquer de la part de quelqu'un. Et Dieu donc a envoyé, hein, à plusieurs reprises ses anges pour communiquer de sa part. Hein, on voit par exemple dans le livre de Daniel, hein, l'ange qui vient communiquer avec Daniel. On a d'autres moments aussi dans les Écritures ou dans le Nouveau Testament, on voit aussi, hein, des anges qui sont envoyés par Dieu pour communiquer quelque chose. Et donc Dieu a communiqué, hein, par le biais des anges, et comme on l'a déjà établi, l'ange de l'Éternel, lorsqu'il apparaissait, eh bien, on comprend que Dieu communiquait par lui-même. Hein, parce qu'on a vu que dans plusieurs passages, cet ange de l'Éternel, il avait, hein, toutes les caractéristiques, hein, de la divinité. Et il parlait, et il agissait, hein, comme étant Dieu. Alors, on vit à une époque où on a beaucoup de communication, n'est-ce pas? On est entouré de moyens de communication, on est entouré de messages en tout genre. Hein, bon, je regarde juste en face de nous, sur l'immeuble en face, il y a le Paris 2024, encore, hein, des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui communique par cela? Bon, il y a un message, hein, la ville, hein, voulait participer donc aux événements olympiques en France, etc. Hein, il y a eu la flamme qui est passée. on vit avec nos téléphones portables, les ordinateurs, Internet, dans une ère où la communication, elle nous submerge. Elle nous submerge. Hein, je dis souvent que c'est vraiment ça qui est problématique, c'est qu'il y a tellement d'informations, tellement de communications qui nous sont données que on ne sait plus, c'est trop. Mais la meilleure façon de communiquer, c'est quoi? Est-ce que la meilleure façon de communiquer, par exemple, c'est par un SMS? Non, hein, si moi je veux parler avec Philippe qui est juste là, je ne vais pas prendre mon téléphone, lui envoyer un message, sauf si c'est quelque chose de très discret, mais... non, c'est pas le meilleur moyen de communication. Hein, et souvent même dans les échanges électroniques comme ça, hein, vous regardez même juste de nos jours tous les problèmes qui existent parce qu'on a des personnes qui communiquent sur les réseaux sociaux simplement en tapant des mots et ils communiquent un message qui peut être interprété de manière différente. Parce que dans un message écrit, on n'a pas la possibilité de voir la personne qui est en train d'écrire, rédiger et de communiquer ces choses-là. On sait que, bon, quand on parle, bon, nous on le fait peut-être un peu moins que les Italiens. Les Italiens, ils utilisent beaucoup de gestes pour communiquer les choses. Nous, on fait des gestes aussi pour communiquer les choses. Mais notre visage, Notre visage communique énormément. Hein, on peut voir quand il y a une personne qui est triste, on peut voir quand il y a une personne qui est fatiguée, on peut voir quand il y a une personne qui est heureuse. Et donc, quand il y a quelqu'un qui envoie un message écrit, on a toutes ces informations-là qui sont manquantes. On ne sait pas dans quel contexte ils disent les choses. Hein, moi, je sais souvent, je vais... Parce que mon papa, voilà, avec sa vue qui baissait, alors il écrivait en lettres majuscules hein, dans ses emails, où... et je disais, tu sais, papa, quand tu écris comme ça, les gens, ils ont l'impression que tu es fâché. Parce que c'est un peu la culture hein, sur les réseaux sociaux et Internet que quand on y fait des phrases en majuscules, c'est quelqu'un qui est énervé, qui est en colère. Alors que pour lui, souvent, c'était juste, bon, ça c'est important, il faut que je mette en majuscule. Mais voilà, la communication, même si le message, le texte, il est là, il n'a pas l'effet escompté, n'est-ce pas? Et donc, le meilleur moyen de communiquer, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir parler face à face avec une personne. Maintenant, gardons ça à l'esprit par rapport au fait que, voilà, Dieu a communiqué avec des êtres humains dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, par le biais, eh bien, de Jésus-Christ. De penser que Dieu s'est révélé, même la plupart du temps, sous une forme humaine, où les gens ont pu non seulement entendre, ils ont pu voir également. Et de savoir que cette communication verbale, directe, hein, qui est la meilleure façon de communiquer, eh bien Dieu l'a employée avec l'humanité. Et c'est pour cela que la plus extraordinaire donc, des révélations divines a été justement l'incarnation hein, de Jésus-Christ. Mais regardons ce que l'évangile de Jean nous dit, parce que l'évangile de Jean nous explique que ben, Christ est bien plus qu'un messager, n'est-ce pas? Il est bien plus qu'un messager. Il est la parole divine incarnée. Hein, j'en reviens à ce passage de Jean chapitre 1er, les versets 1er à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Jean nous communique, nous apprend que ben, Jésus, il est la parole. Alors il n'est pas simplement... Voilà un messager qui a communiqué quelque chose de la part de Dieu. Il est le moyen de communication de Dieu pour l'humanité. Elle était au commencement avec Dieu. Donc elle a les caractéristiques divines. Toutes choses ont été faites par elle. Elle a la puissance divine et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Hein. La vie, c'est un attribut divin. Hein. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alors, on va faire juste une petite parenthèse ici. Jean, en tant que prophète de la part de Dieu, il a communiqué un message à l'humanité aussi, n'est-ce pas? Mais notez bien qu'ici, l'apôtre Jean, hein, en parlant de Jean-Baptiste, il montre bien que Jean-Baptiste, il n'était pas à la même échelle que la parole vivante de Dieu. Il dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Nous connaissons bien ces versets, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et là, ce verset 14, qui est vraiment un verset extraordinaire, quand on veut vraiment essayer de comprendre les choses concernant la personne de Jésus-Christ et qui il est, la parole a été faite chair. C'est-à-dire que cette parole, la parole, c'est quand même quelque chose qui n'est pas physique, hein, c'est immatériel, la parole. Mais Dieu l'a rendue matérielle, l'a rendue physique, pour que cette parole puisse avoir un effet encore plus grand, et qu'il y ait cette communication bien plus directe, bien plus claire, de la volonté de Dieu pour l'humanité. Donc la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On a parlé juste avant que c'était impossible pour les êtres humains de voir la gloire de Dieu, mais en Christ, parce que Jésus est devenu homme, la seconde personne de la divinité est devenue homme, et bien maintenant, l'humanité a pu voir un aperçu de la gloire de Dieu. Et on pense aussi à ces trois disciples qui, sur la montagne, ont pu voir le Seigneur Jésus en présence d'Élie et de Moïse, et de voir cette gloire resplendir autour d'eux. Et là encore, c'était limité. Mais Dieu, en Jésus-Christ, a rendu cela possible. Dans tous les exemples que l'on a cités auparavant, le rôle même de l'ange de l'Éternel a été de communiquer verbalement la volonté divine à l'être humain. N'est-ce pas là justement ce que Jésus-Christ a fait au cours de son ministère? Il a fait quoi? Est-ce qu'il a simplement profité de la situation? Je suis Dieu, je viens maintenant parmi vous et vous allez maintenant m'adorer, etc. Il n'a pas eu une attitude tel, non, il est venu en tant que serviteur, nous dit les Écritures. Il s'est humilié déjà en devenant homme. Et même en naissant dans un bled paumé, dans une famille quelconque, alors que bon, il est quand même de lignée royale, physiquement parlant, humainement parlant, mais il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, divinement parlant. Non, ce que l'on voit Christ faire au cours de son ministère, c'est accomplir la volonté du Père et communiquer à l'humanité ce que le Père attend de chacun d'entre nous. Et son message a été un message toujours d'amener l'être humain à regarder au-delà de sa propre personne et de regarder à Dieu pour trouver son salut, pour trouver la grâce, pour trouver l'amour, et par là aussi, de trouver la force de pouvoir même aimer les autres, aimer les ennemis, de servir, d'avoir cette capacité en Jésus-Christ d'accomplir toutes ces choses. Et en Christ, non seulement nous avons donc cette communication de la volonté divine qui est que pour tout homme, Dieu veut que nous puissions le connaître. Dieu veut que par la repentance, nous puissions être pardonnés de nos péchés. Eh bien, c'est Dieu lui-même qui a communiqué ces choses directement, et ce, en se mettant à notre niveau. Il y a des années de cela, lorsqu'on avait les cours d'homilétique, de prédication à l'Institut biblique, il y a une des leçons qu'on nous a rapidement appris, c'est que quand on communique, lorsque l'on va prêcher la parole, lorsque l'on va apporter des études bibliques, il faut savoir et pouvoir s'adapter aux personnes qui sont là. C'est-à-dire que si on était dans une pièce où on a un professeur d'université et puis des enfants en école primaire, il faut que ce que nous on dise, chacun puisse le comprendre. Et Christ, il a fait cela. Il s'est mis à notre niveau, et il a enseigné, et il a communiqué de la part du Père ce que nous devions savoir à son sujet. Alors, pour terminer aussi, il nous faut voir que par rapport à cette théorie que l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, il s'agit de Jésus-Christ lui-même, c'est que dans le Nouveau Testament, à partir du moment où on a Christ qui s'est incarné, qui est né, qui a vécu parmi les êtres humains, les apparitions de l'ange de l'Éternel, on ne les trouve plus. Elles ont cessé. C'est-à-dire qu'à partir du Nouveau Testament, on n'a plus ces apparitions-là comme on avait dans l'Ancien Testament. Les anges, il y en a qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament, et à de nombreuses reprises. Mais quand on parle de l'ange de l'Éternel, on n'en voit pas de mention dans le Nouveau Testament. Alors, certains vont dire, Oui, mais il n'est pas question de l'ange de l'Éternel qui parle à Joseph et à Marie dans Matthieu. Ah oui, c'est vrai que si on regarde dans Matthieu chapitre 1er, verset 24, on a cette mention de l'ange de l'Éternel, mais ce n'est pas ce même ange de l'Éternel. Et la raison pour cela, c'est que, eh bien, déjà avant cela, au verset 20, on parle d'un ange, hein, qui apparaît et qui communique, hein, à Marie, à Joseph. Mais quand il y a l'appellation l'ange de l'Éternel, c'est en rapport, eh bien, à un ange. Hein, dans les versets précédents, en verset 20, hein, c'est même important de noter que même dans le grec, hein, la langue originale du Nouveau Testament, il n'y a pas cet article, hein, devant le mot ange. Hein, c'est dans la traduction française, on a un ange, et au verset 24, eh bien, on a l'ange de l'Éternel, parce que ça fait référence à cet ange qui était venu donc de la part de Dieu. Mais voilà, le fait que ce terme, l'ange de l'Éternel, n'est plus employé, ça donne justement beaucoup de poids même à cette théorie selon laquelle, eh bien, quand on a l'ange de l'Éternel qui est mentionné dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, eh bien, il est question, hein, de Jésus-Christ lui-même avant son incarnation. Et donc le Fils incarné, il est celui donc qui a manifesté Dieu, qui a manifesté ce Dieu invisible, non seulement par son incarnation, hein, mais on voit, hein, dans le Nouveau Testament, mais déjà dans l'Ancien Testament, hein, on a ces apparitions de l'ange de l'Éternel. Si vous regardez un passage dans Actes chapitre 7 et verset 38, hein, dans la prédication, il dit, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï et avec nos pères, reçut, hein, des oracles vivants, hein, pour nous les donner. Là, on parle, hein, de Moïse, on parle de celui qui a reçu, hein, de la part de l'Éternel lui-même des oracles pour nous les communiquer. Jean 14, verset 9, hein, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas reconnu, Philippe, hein, celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père. Donc on a énormément de passages qui nous indiquent que, ben, Jésus-Christ, il est le Dieu incarné, il est celui qui, dans le Nouveau Testament, hein, se présente comme celui qu'il est, hein, il est Dieu. Hein, celui qui l'a vu, ben, il a vu, hein, le Père. Et on apprend, on comprend bien, en lisant ces passages de l'Ancien Testament, avec les informations que l'on a dans le Nouveau, qu'il s'agissait bien de Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 1er, hein, verset 18, encore une fois, hein, pour juste terminer cette section, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, hein, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a déjà communiqué par le Fils, de manière directe, à certaines personnes. Dieu a même communiqué, hein, Dieu s'est révélé lui-même, hein, dans sa parole, hein, qu'il a communiqué, hein, à ceux qui ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit, eh bien, ces différents livres que nous avons dans l'Ancien Testament. Mais on voit que toute la révélation de Dieu, elle s'est faite par Jésus-Christ lui-même. Autant dans le fait que, bah, il est la parole, il est celui qui a créé, qui a manifesté, hein, l'étendue de la gloire de Dieu, hein, de ce que Dieu a pu créer. Il est celui qui a révélé, hein, en devenant un homme, en devenant un être humain, il a révélé qui il est, qui Dieu est, ce que Dieu attend de nous. Donc pour moi, c'est extraordinaire de voir comment, eh bien, les choses s'imbriquent. Hein, pour comprendre que dès le départ, au commencement, était la parole. Dieu a communiqué, et c'est Christ qui communiquait, dès le commencement. Et de le commencement jusqu'à la fin, c'est Christ qui s'est révélé à l'humanité.